Syrie, anatomie d'un siècle tourmenté.
Quelques jours après la visite du nouveau président syrien Ahmed al-Shara à la Maison-Blanche, où en est la Syrie débarrassée du clan Assad, de l'Empire ottoman à la présence de Daesh, en passant par la mainmise française ou les appétits russes, quelle est l'histoire de ce pays tant convoité et si vulnérable aux ingérences extérieures?
Thomas Negaroff.
Six grandes dates, six épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec Mathieu Rey, chercheur au CNRS, au Centre de Recherche Historique.
Épisode 1. 1920, l'impossible indépendance.
Mes amis, l'indépendance se prend et ne se donne pas. Faisal, janvier 1920, de retour de sa rencontre avec Georges Clemenceau. Bonjour Mathieu Rey.
Bonjour.
C'est avec vous qu'on va évoquer l'histoire de la Syrie, ce pays fascinant, méconnu, mais pourtant essentiel à notre monde contemporain. On va parler de la Syrie, des Syriens et du monde extérieur qui a tenté beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infléchir la politique de ce pays. Vous êtes chercheur au CNRS, au Centre de Recherche Historique, et vous êtes chercheur associé également au Collège de France, l'un des meilleurs, sinon le meilleur spécialiste de l'histoire de la Syrie. On commence avec cette citation de Faisal de 1920. Je la répète, mes amis, l'indépendance se prend et ne se donne pas. C'est quoi à l'époque la Syrie en 1920?
En 1920, la Syrie, c'est un projet politique d'abord. Depuis les années 1910, on a eu toute une série de consultations dans le cadre de l'Empire ottoman parce qu'on a un premier parlement qui se réunit en 1908 puis en 1912, dans lequel des représentants des différentes villes syriennes principalement, peu des campagnes, se retrouvent dans la capitale et discutent et élaborent. Pendant la Première Guerre mondiale, les élites syriennes se séparent progressivement de l'Empire, pour tout un tas de raisons. Au lendemain de cette guerre, ils aspirent à une chose, portée par tout un courant réformiste depuis plusieurs décennies, établir un régime constitutionnel qui permette de garantir l'indépendance, la souveraineté, pour des forces qui, après tout, ont pris les armes aux côtés des pays de l'Entente, et donc ont le droit d'être à la table des vainqueurs.
Donc on rappelle que la Syrie est une province de l'Empire ottoman. Pourquoi la France? Pourquoi est-ce qu'il va voir Georges Clemenceau, Faisal? Et qui d'ailleurs Faisal à ce moment-là? C'est pas n'importe qui.
Faisal, c'est le fils du shérif de la Mecque, c'est-à-dire celui qui est en charge de la protection des lieux saints,
oui,
que les Anglais ont démarché à partir de 1915 pour qu'ils prennent les armes contre l'Empire ottoman. C'est un moment où les Britanniques et les Français ne savent pas comment débloquer le front oriental et soulever une partie des populations permettrait de régler le problème. Pour cela, ils arriment leur discours à un discours de type en termes de nationalité et parlent des Arabes contre des Turcs, alors même que dans l'Empire ottoman, ces identités sont beaucoup plus fluides. Faisal porte les armes, d'ailleurs avec l'une des figures assez célèbres, Laurence d'Arabie, oui, parvient en 1918 aux portes du territoire syrien actuel, rentre dans Damas et établit sur place immédiatement un gouvernement provisoire, en instituant par là même une administration locale qui sera supposée être indépendante et qui devra normalement créer un grand royaume arabe indépendant tel qu'il a été promis par les alliés.
Ça, donc, c'est les fameux accords Sykes-Picot de 1916.
Ça, ce sont les fameux accords entre les Britanniques,
ah oui,
et
pas Sykes-Picot, oui,
et les Hachémites. Le problème, c'est qu'en 1916, au moment où à Verdun, on a du mal à dessiner la victoire, il faut repenser les buts de guerre, et c'est là où Sykes et Picot, donc l'un représentant britannique, l'autre représentant, ouais, français, commencent à discuter de l'avenir de ces provinces ottomanes et se disent qu'il faudrait mieux se les répartir sous la forme de morceaux de protectorat ou de colonies, on ne sait pas vraiment. Ouais. Et donc, ils proposent un premier découpage qui ne comprend pas la Syrie, mais seulement son littoral, dans les zones de protection française, parce que depuis la fin du 19e siècle, la France aspire à avoir un rôle plus important sur ce territoire, notamment au nom de la protection des minorités, ce qu'elle s'était attribué depuis 1860 au Liban.
Minorité chrétienne.
Minorité chrétienne, bien sûr. Là, lorsqu'elle rentre et lorsqu'elle analyse la Syrie au lendemain de la Première Guerre mondiale, elle va identifier d'autres minorités, druzes, alaouites et autres, et procéder à un découpage du territoire relativement important. Pourquoi Faisal rencontre Clemenceau? C'est que tout simplement, on a ouvert les discussions de paix à Versailles. Faisal représente une des délégations qui est présente à Versailles pour discuter de l'avenir de la région. Et pour lui, il est à égalité normalement des autres, c'est-à-dire qu'il fait partie des vainqueurs,
oui,
et non pas des vaincus, et donc a le droit au chapitre. Sauf que très rapidement, d'autres délégations sont aussi missionnées par les Français, de telle manière à mettre sa voix en minorité. Il discute avec Georges Clemenceau, qui est à l'époque le président du Conseil, de telle manière à s'assurer que la formule du royaume arabe, au moins autonome, puisse exister, à défaut d'être indépendant. Mais bien vite, il va devoir déchanter.
Mais ce royaume arabe, c'est pas la Syrie. C'est plus grand que la Syrie. Est-ce qu'il y a un projet syrien particulier ou est-ce que ce n'est qu'un projet pan-arabe tel que promis par les Anglais ?
La question est difficile en 1920 parce qu'ils réunissent un grand congrès constitutionnel, une constituante, à partir de mars 1920, dans laquelle on a des délégués qui viennent d'Irak, qui viendraient du territoire qu'on appellera la Palestine dans quelques temps, de Jordanie et un peu du Liban. Donc on aurait une sorte de grand croissant fertile présent dedans, qui proclame justement la naissance d'un royaume constitutionnel indépendant sous la conduite du roi Faisal, et qui d'ailleurs reconnaît le droit de vote des femmes à l'époque, et qui pour ses représentants doit permettre la pleine réalisation de cette souveraineté qui a été tant attendue, c'est-à-dire une formule qui évitera que des puissances étrangères s'octroient le fait de pouvoir protéger des minorités, voire donner des portions de territoire à ces minorités, telles qu'on avait vu dans les Balkans tout au long du XIXe siècle.
Ça, c'est hyper intéressant, parce que ça veut dire que dès l'origine, parce qu'il y a aussi le souvenir de l'Empire ottoman, et parce qu'on connaît les appétits européens ailleurs dans le monde arabe, et la Syrie en particulier, se méfient déjà d'un découpage au nom des intérêts qui seraient légitimés par la lutte pour les minorités, mais peu importe. En tout cas, il y a déjà le sentiment que de la vulnérabilité de ce territoire.
C'est la hantise des élites de l'époque, parce qu'ils ont vécu sans le vivre directement dans leur propre vie, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas encore nés, mais c'est l'indépendance de la Grèce, c'est-à-dire des orthodoxes ottomans qui prennent leur indépendance et deviennent un peuple autre. Donc on a un glissement des identités, on bascule d'une identité linguistique ou confessionnelle vers une identité politique.
Oui.
C'est l'indépendance de la Bulgarie, c'est l'indépendance de la Roumanie qu'ils ont vécu. Il faut se souvenir que le grand traumatisme juste avant la guerre, c'est la question de Bosnie-Herzégovine, qui est conquis par l'Autriche-Hongrie en 1908. En 1908, quelqu'un comme Shukri al-Kuwatli est dans la vingtaine d'années. Shukri al-Kuwatli étant le premier président de la République indépendante et un activiste à cette époque qui fait partie des groupes voulant lutter contre les Français ou voulant lutter contre les Ottomans pendant la Première Guerre mondiale. Donc ils sont imprégnés de cela. Ils ont vécu le bombardement de l'Italie en 1912 sur Beyrouth, la guerre contre la Libye, où ils voient que la dépossession peut passer par plusieurs mécanismes. Et bien souvent dans ces mécanismes, il y a le fait de vouloir protéger certaines catégories de la population, parce que cela permet d'avoir plus d'emprise sur place.
Alors, si on revient à la phrase de Faisal, il dit « l'indépendance se prend et ne se donne pas ». Ça veut dire qu'il revient déçu de sa rencontre avec Clemenceau. Il a compris qu'il faudra aller chercher l'indépendance, parce qu'il ne faut pas compter sur les Français pour leur donner, c'est ça ?
À ce moment-là, il est dans un double discours. Il est dans un discours à l'adresse des alliés, en disant que la formule n'a pas été tranchée, il faudra attendre avril 1920 pour que la France et la Grande-Bretagne se voient attribuer des mandats qui, s'inspirant de Sykes-Picot, vont découper cette région avec des zones d'influence plus précises. Mais on est encore dans un entre-deux. Donc il est encore possible d'obtenir quelque chose. Ça, c'est la première réponse de Faisal. La deuxième réponse, c'est sur le camp intérieur. Parce que le problème de Faisal, c'est qu'il est largement présent à Versailles alors que les débats politiques se déroulent à Damas. Et une aile de plus en plus radicale appelle à prendre les armes et à relancer une guérilla contre une potentielle occupation étrangère, parce que pour une partie des politiques de l'époque, il s'aperçoit que le rapport de force ne leur est pas nécessairement favorable. Et c'est toute cette aile qui risque de menacer le pouvoir du jeune roi, parce que du coup, il devrait d'abord négocier avec eux pour pouvoir faire quelque chose en son propre pays. On voit les premiers partis politiques émerger à ce moment-là, on voit des appels à former une armée nationale, on voit cette matrice émerger qui va donner toutes les révoltes coloniales, anticoloniales pardon, à partir de 1919 et suivantes dans les provinces syriennes.
Et de fait, la France va rester. Là, c'est un mandat de la SDN. Rappelons en deux mots ce qu'est un mandat de la SDN.
Le mandat de la SDN, c'est une forme assez hybride entre un protectorat où une puissance s'octroie à peu près tous les domaines régaliens.
Ouais.
Et les appels de Wilson à octroyer une souveraineté. Donc on constate qu'il y a des peuples qui ne sont pas encore assez mûrs pour devenir indépendants. On doit les y conduire. Donc à la différence du protectorat, on a le terme qui est inscrit dans le mandat. D'ailleurs, on l'arrime à un nouveau discours parce qu'il faut développer ces sociétés et ces États. Donc le terme de développement apparaît à ce moment-là. Et la puissance mandataire est en charge, en gros, de trouver les contours du futur État.
Est-ce qu'il y a en France des débats autour de la Syrie en particulier ? Est-ce que, comme pour le Liban, il y a l'idée des minorités ? Est-ce que c'est justifié ? Est-ce que la Syrie a un rôle dans les débats politiques français de l'époque ?
La Syrie a un rôle principalement dans le parti colonial, parce que pour le parti colonial, ce qui se déroule en Syrie, c'est l'avenir d'un potentiel nationalisme arabe. Alors on ne le dit pas sous cette forme-là, mais on s'inquiète de toutes les influences possibles sur les autres possessions musulmanes de la France, principalement l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Et donc on veut avoir un droit de regard dessus. Par ailleurs, depuis 1913, avec Poincaré, on a eu un discours sur l'idée de Syrie, c'est-à-dire que ce territoire devrait être quelque part élément de la France, parce qu'on réactive toute une mythique depuis François Ier. On a eu des relations, on a eu cette protection des populations chrétiennes qui sont loin d'être minoritaires sur place, où on a 15 à 20% à cette époque. Et donc, on se dit qu'on a naturellement des alliés sur place avant de découvrir que finalement, ça n'est pas exactement le cas. Et surtout, pour les Syriens et les Libanais, de découvrir que la France n'est pas exactement une force protectrice, mais pour une partie d'entre elles, une force d'invasion, comme elle le fait à partir de 1920.
À la fin du 19e, la Syrie, et j'aimerais qu'on finisse l'épisode avec ça, a aussi l'image d'un creuset culturel, ce qu'on appelle la Narda, une sorte de renaissance culturelle, d'ailleurs plus autour de la culture arabe que de la religion musulmane. Est-ce que ça, ça joue aussi un rôle pour la République française ?
La République française ne voit pas tellement cette dimension. Par contre, localement, c'est extrêmement important parce qu'on a des générations qui vont occuper le devant de la scène politique jusqu'à peu près dans les années 50, qui grandissent donc à la fin du 19e siècle, qui sont nourries et imprégnées de l'idée qu'il faut revitaliser à travers une redécouverte de la langue arabe la culture locale, mais aussi l'arrimer progressivement à toute la découverte des projets politiques. C'est l'idée des réformistes et leur univers de combat, c'est véritablement le constitutionnalisme et le libéralisme ou le pluralisme politique. Et ceci demeurera en place jusque dans les années 50 où d'autres données feront que les urgences sociales et géopolitiques feront passer à un autre projet.
On voit presque... Est-ce qu'on peut dire que c'est une forme de désir d'Occident ? Ou c'est complètement anachronique de dire ça ?
C'est pas un désir d'Occident, mais par contre, c'est un désir que l'Occident les traite à égalité, et c'est un désir de modernité, je dirais plutôt, où on voit vraiment le terme entrer dans la langue. On parle de hadith, de tahdith, à propos de ces mutations.
Ça veut dire quoi,
qu'on fait ces modernisations et modernes.
D'accord.
Donc, on veut emprunter des outils,
oui,
parce qu'on a bien vu que l'Europe était plus puissante. Donc, on veut emprunter des outils, mais pas nécessairement pour cela corrompre tout ce qui est propre au territoire local. Donc on parle d'assemblée, on parle de parti, parce que l'on voit que c'est un des vecteurs qui a permis, notamment à la France, de devenir une grande puissance au cours du 19e siècle. On veut moderniser l'armée dans le même sens, on va faire appel à des expertises étrangères, et depuis la fin de l'Empire ottoman, on voit d'ailleurs une concurrence des expertises étrangères qui fait que nous avons des élites qui s'adressent à la fois aux Russes, aux Britanniques, aux Français, voire aux Belges, pour ce genre de compétences.
Et inversement, c'est ma dernière question, est-ce qu'il y a une forme de francisation de la Syrie dans les premières années des années 1920 ?
Alors la francisation, elle est manifeste parce que les Français mettent en place une administration qu'ils dupliquent depuis leur modèle, avec l'adoption d'un certain nombre de réformes pour mettre en place des départements techniques, le département des Antiquités, le département de la Poste, etc., etc., où les Français adoptent les codes de loi qu'ils connaissent chez eux, ce qui fait que la Syrie, d'un point de vue législatif, ressemble énormément à la France. Cela va même plus loin parce que tout le débat sur les difficultés du parlementarisme français se retrouve sur place, et on est en plein dans le débat sur ce qu'on appelle le parlementarisme rationalisé, pour savoir comment mettre en place une constitution qui ferait place aux assemblées, mais qui éviterait d'avoir trop d'instabilité politique.
On est bien en Syrie, hein, et dans les années 1920.
30,
dans les années 1930, un peu après, effectivement. Et bientôt, la France s'en ira quelques années plus tard. Ce sera l'objet de notre prochain épisode. Syrie, anatomie d'un siècle tourmenté, est un podcast original de France Inter.